chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Existence, le premier de l'année 2013. Comme vous le savez tous, la fin du monde n'a heureusement pas eu lieu, et nous voici au début d'une année nouvelle. En ce temps de bonnes résolutions idéalistes et intenables, voici l'occasion rêvée de nous pencher sur un sujet qui nous laisse tous songeurs, le rêve.
Yeah.
Au fond, vous le savez, rêver, ça transcende l'espace et le temps. C'est très commun, c'est universel, à tel point que c'est un véritable thème littéraire. Ainsi, on rêve dans la Bible, et Marie-Ève le sait bien, qui se fera un plaisir de nous en parler. On rêve dans le roman, dans les fables, dans l'épopée. Mais quand il s'agit de raconter son rêve, là, c'est pas toujours très facile. Annette s'interrogera donc sur ce paradoxe dans sa chronique qui vous donnera peut-être envie de vous procurer un petit cahier pour y consigner précieusement vos rêves et explorer, en le relisant, le labyrinthe de votre moi. Et ainsi, vos rêves deviendront peut-être le support de vos rêveries, à la frontière entre la songerie vagabonde et la méditation réfléchie. C'est dans cet état de torpeur que j'espère vous emporter au fil d'une promenade avec Rousseau et Bachelard.
Voici plus que jamais dans l'univers du rêve, avec le célèbre prélude de Debussy, mettant en musique l'après-midi d'un faune, non moins célèbre poème de Mallarmé. L'après-midi d'un faune, c'est la rêverie pendant la sieste, et les songes d'une drôle de bestiole, qui a peut-être trop bien déjeuné, et qui voit d'autres bonbons et d'autres festivités. Presque à portée de main. Oui, il est temps de se réveiller, donc rêve, songe, vision, je les ai tous les trois évoqués. Trois termes qu'on a parfois du mal à distinguer. Alors tournons-nous pour nous aider vers l'un des grands livres de la sagesse divine et humaine, car il est aussi fruit de l'expérience et du bon sens des hommes qui l'ont écrit. Je veux bien sûr parler de la Bible. Dans la Bible aussi, on trouve les trois types de rêves que je viens de mentionner. Et ce qui les distingue, c'est leur origine et la forme qu'ils prennent. Les rêves d'abord. Disons que c'est ce qui provient de l'imaginaire humain. Eh oui, même de cela la Bible en parle. Pour revenir à notre faune de tout à l'heure, n'avez-vous jamais, en dormant alors que vous aviez faim, rêvé de nourriture et de boisson ? Le prophète Ésaïe dit à ce sujet « Un homme affamé rêve qu'il est en train de manger, mais quand il se réveille, il a encore le ventre creux. Un homme assoiffé, lui, rêve qu'il est en train de boire, mais quand il se réveille épuisé, il a encore la gorge sèche. » De vrais rêves de masochistes, en somme. Les songes, ensuite. Dans le songe, il y a quelque chose de moins, disons, terre à terre. Les songes, ce sont ces rêves qui nous donnent des intuitions pour notre vie, parfois très concrètes, ou qui nous questionnent par leur caractère énigmatique. Des intuitions et des énigmes telles qu'on dirait qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles sont d'origine non pas humaine, mais divine. C'est par exemple le cas des songes du pharaon racontés dans la Genèse, et que Joseph, le fils du patriarche Jacob, va décoder pour lui. Le pharaon voit dans un songe sept vaches grasses sortir du Nil, puis sept vaches maigres. Pire, les vaches maigres se mettent à dévorer les vaches grasses. Encore une histoire de repas, le pharaon avait faim à ce moment-là, me direz-vous. Que nenni ! Les sept vaches grasses annonçaient sept années d'abondance, et je ne parle pas de fromage, n'est-ce pas Thomas ? Pour l'Égypte, et les sept vaches maigres, sept années de sécheresse, qui vont littéralement dévorer toutes les réserves des années précédentes, au point qu'on aura complètement oublié les années fastes. Les visions, enfin. C'est un peu l'expérience à sensation, le film en 3D avec bonus et sans doublage pour les cascades. On n'est pas obligé de dormir pour en avoir. Mais bien plutôt, on est saisi par un esprit et on se retrouve partie prenante d'une action. Et on reçoit en plus des ordres ou des avertissements. Stupeur et tremblement. C'est le cas pour le pauvre roi Nabucodonosor qui voit en plein festin une main écrire sur le mur de son palais pour lui annoncer dans une langue qu'il ne comprend même pas que son royaume va être bientôt divisé. Et heureusement qu'il y a là encore un prophète, Daniel, à côté pour décoder le tout. C'est le cas bien sûr aussi dans l'Apocalypse, où par le nom même du livre, on approche au plus près de la signification de la vision. C'est une révélation. Alors vous allez me dire, entre le songe comme énigme et la vision comme révélation, la différence est fine. Surtout s'il faut à chaque fois le décodage de gens surdoués ou inspirés, enfin de prophètes quoi. C'est pourquoi l'on trouve aussi une autre catégorisation des rêves, qui cette fois prend le critère du contenu, du message du rêve. Il y a ainsi les rêves prémonitoires et les rêves directifs. Les rêves prémonitoires, ce sont ceux qui annoncent de manière énigmatique un événement qui va se produire. Les rêves directifs, eux, ce sont les ordres donnés d'en haut, les intuitions qui nous sont données pour l'action. Par exemple, c'est le rêve que reçoit Joseph, là je parle du père adoptif de Jésus. Rêve qui l'incite à fuir en Égypte avec Marie et Jésus pour que ce dernier puisse échapper au massacre des nouveau-nés organisé par le roi Hérode. Mais il y a aussi une faille dans le classement entre rêves prémonitoires et rêves directifs. Un rêve dans la Bible échappe en effet à cette catégorisation, et ce n'est pas l'un des moindres. C'est le rêve de Jacob. Jacob est en fuite car il a usurpé les droits de son frère aîné. Jacob doit à présent échapper à la colère de celui-ci. Il est seul dans le désert. Et lorsque le soleil se couche, il se décide à dormir à la belle étoile. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Cette image, très connue, est suivie par une promesse de Dieu. La promesse qu'il sera toujours à ses côtés, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Et la promesse que les bénédictions promises se réaliseront pour lui et pour ses descendants. Au réveil, Jacob se rend compte qu'il vient d'être littéralement relié au divin. À la fois par l'image de son rêve, les anges qui montent et descendent, et par les paroles reçues. Il a même l'impression d'avoir découvert l'entrée de la maison de Dieu, la porte du ciel, c'était Stargate avant l'heure. Dieu n'est pas seulement dans les grands monuments construits par les hommes, pas seulement chez les gens d'à côté, pas seulement chez mon voisin juif, chrétien ou musulman. Non, il est là où je suis, et il est dans le sommeil d'un homme seul. Ce rêve de Jacob, c'est finalement le rêve d'un rêve. Oui. Parce que le rêve, c'est ce qui nous relie, certes, à une part obscure, énigmatique de nous-mêmes. C'est deuxièmement ce qui nous relie à nos intuitions profondes et à une forme de connaissance innée du monde et des hommes. Mais c'est aussi, troisièmement, ce qui nous relie aux étoiles et à ce qui nous dépasse. Ce qui nous relie au céleste et au divin. Ce qui nous relie à ceux qui ne sont plus et à celui qui, peut-être, essaye de nous toucher là où nous en sommes.
Alors on va continuer à rêver ensemble, cette fois avec Annette.
Je rêve que je suis dans un studio de radio, tout le monde est là, Marie-Ève, Thomas, et je ne me suis pas préparée. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire, et tout le monde me regarde.
Ah oui.
Et le pire, j'ai raconté un rêve. Cela se ne fait pas, on risque vraiment trop. Premièrement, personne ne s'intéresse aux rêves des autres normalement. Et si je suis quand même sûre d'avoir au moins l'attention de Marie-Ève, de Thomas. En plus, depuis Sigmund Freud, c'est extrêmement risqué. Tout le monde commence à vous analyser. Tu leur racontes que tu as volé dans ton rêve. Alors là, tu as une sexualité problématique. Tu tombes dans ton rêve. C'est un signe sûr de ton infériorité. Or, tu racontes au monde que tu t'aimes pas préparer suffisamment. Je vous laisse faire l'interprétation. Comme nous le montrent les exemples de la littérature, il est spécialement peu recommandable de parler de son rêve à son mari. Dans la Traumnovelle de l'écrivain autrichien Arthur Schnitzler, la nouvelle revue en français, la femme, Albertine, raconte son rêve à son mari. Il faut dire que, contrairement à Madame Bovary et à toutes les autres, Albertine était toujours fidèle à son mari. Mais quand celui-ci apprend qu'Albertine a des fantasmes qui incluent d'autres hommes, il veut se venger. Heureusement, il a fait des transgressions similaires, même en réalité, et le couple finit par se pardonner. En effet, la fin pourrait être vraiment pire. Dans la nouvelle « The Dream » de Somerset Maugham, un écrivain anglais, une femme raconte son rêve à son mari. Dans ce rêve, le mari la tue en la faisant tomber dans les escaliers. Il est peut-être surprenant que sa femme finisse sa vie exactement comme ça. Mais toute prudence, toute discrétion est vaine si l'on n'est plus seul dans son rêve, si d'autres l'ont envahi, comme le montre la nouvelle « Lord Mountdragon » du même écrivain. Lord Mountdragon est le ministre des Affaires étrangères, un aristocrate arrogant qui aime bien humilier un membre de parlement d'origine modeste du nom de Griffiths. Mais pendant la nuit, dans son rêve, les rôles se sont inversés. L'aristocrate se voit toujours humilié par Griffiths. Et le pire, c'est que le jour suivant, Griffiths fait des remarques comme s'il avait vraiment été là, comme s'il avait partagé le rêve. C'est bien étonnant, n'est-ce pas?
Oui.
Un peu comme si Marie-Ève, Thomas, était dans un studio d'enregistrement avec moi qui oubliait de se préparer.
Mais ce n'est heureusement pas le cas.
C'est bien fait. Tu m'as réveillée au milieu d'un très beau rêve. Oui, je sais qu'il fait un temps merveilleux. Mais mon rêve était merveilleux aussi. Quel genre de rêve ? C'est un secret. Parce que quand on raconte un rêve, il ne peut plus se réaliser.
Malgré les avertissements de Cendrillon, on va quand même prendre un risque. Et on va demander à Thomas, notre volontaire du jour, merci d'être venu exprès pour ça dans le studio, pour donner ton avis et surtout pour raconter un rêve marquant, car c'est quand même ça le plus drôle quand on parle des rêves.
Un rêve marquant, tout de suite j'ai pensé à celui que j'ai fait hier. C'est récent, oui. J'arrivais en studio, il y avait un enregistrement d'existence qui était prévu et il se passait bien. Et là, je me suis dit que j'étais en train de rêver. Alors bon, effectivement, c'était pas ça.
Merci Thomas.
C'était mon petit cadeau de début d'année. Non, je veux vraiment vous raconter un rêve qui m'est arrivé quand j'étais petit. Alors, après avoir fait une blague sur Marie, vous allez voir que je suis plein d'autodérision parce qu'il est vraiment nul, ce rêve. Donc, je sais que je vais m'afficher auprès de tous les auditeurs. J'étais petit et donc c'était à l'époque où j'étais encore en maternelle. Mais c'est un rêve qui est revenu vraiment beaucoup de fois. J'étais en voyage scolaire avec ma classe apparemment et on est arrivé au village des Schtroumpfs. Voilà pourquoi j'ai dit que j'allais m'afficher auprès de tout le monde. Et donc, j'arrive au village des Schtroumpfs. Je descends dans le village des Schtroumpfs. Je suis content, etc. Et là, je vois que le village des Schtroumpfs, en fait, ressemble bigrement à la cour de récré de ma maternelle. Et tout d'un coup, du haut du village des Schtroumpfs arrivent des méchants, mais pas des méchants genre Gargamel, des bandits avec des fusils mitrailleurs, etc. Ils commencent à tirer partout. C'est la panique. Et moi, je me réfugie, je me cache et je me cache dans les toilettes de ma maternelle. Et j'ai très très peur. Il y a des cris partout. C'est horrible. C'est vraiment un cauchemar. Et je me rends compte en fait qu'au fond de mes toilettes il y a une porte et que cette porte donne sur un champ quelque part, voilà, et donc je me dis non mais c'est la seule solution, il faut ouvrir cette porte, et j'ouvre la porte et je me mets à courir un peu en mode petite maison dans la prairie et le rêve s'arrête, voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite méchanceté au départ, parce que
on va éviter de l'interpréter, mais en tout cas tu avais retrouvé ta liberté, c'est bien. Et toi Nadège?
Il a pris la clé des champs.
Tout à fait.
Un rêve marquant, bon, je crains de faire peur à tout le monde, mais enfin pourquoi pas. C'était un rêve assez surréaliste, à la limite du pictural en fait. Je me promenais dans une forêt, jusque là tout va bien me direz-vous, c'est très classique. Et puis tout d'un coup la forêt est devenue orange, violette, de toutes les couleurs.
C'est moins classique.
Beaucoup moins classique déjà. Et j'étais avec ma mère, alors je ne sais pas pourquoi. Lecture freudienne dira l'absence du père vous peut-être dire quelque chose, on verra. Et nous nous sommes réfugiés dans un arbre parce qu'un tigre blanc nous poursuivait. Et mon rêve s'est arrêté là, je ne sais pas ce qu'il a fait ensuite et je crois que je préfère ne pas le savoir.
Oui, on comprend aussi, oui.
Et tu t'es transformé en écureuil pour l'occasion.
Pas de private joke.
Oh bon, on a commencé avec moi, donc tu sais, on peut faire des private jokes.
Et toi, Marie-Ève?
Tu fais deux rêves aussi récemment, parce que les rêves de mon enfant, j'ai pas envie de les raconter, c'est trop personnel. Je me mouille pas,
elle
pas forcément.
Lâche, en fait, lâche.
Ah, terriblement, elle fuit.
Et puis, de toute manière, ce serait trop proche des vôtres, alors je me démarque un peu.
T'as rêvé de Schtroumpf aussi?
Et de tigre?
Non, mais j'étais poursuivie aussi, autrefois, par des kangourous, mais bon, c'est ça.
Ça y est, on sait tout.
C'est Walibi Schtroumpf.
Pour être plus sérieux, j'ai encore rêvé l'autre nuit que mon professeur de latin prenait tout à coup l'apparence de mon directeur de mémoire et me disait qu'il fallait absolument que je travaille sur ma mémoire. Donc je pense que je vais m'y mettre bientôt et arrêter de faire existence.
C'est prémonitoire, je crois.
C'est une émission qui ne fonctionne jamais correctement. Et l'autre rêve, parce qu'il y en a un plus marrant quand même. L'autre soir, comme j'avais vu James Bond il y a quelques temps, j'étais une James Bond girl.
Oh là là.
Là, c'est un fantasme.
Ah mais total.
Et donc j'aidais à retrouver un engin, je ne savais pas trop quoi d'ailleurs, qui était caché dans un coffre-fort et je devais séduire.
Non
mais le pire
quoi,
c'est que je devais séduire un homme qui était tout sauf beau et
Et alors, t'as eu du mal ?
Il s'avère que j'ai dû utiliser un peu des armes à feu pour le contraindre, mais que j'ai fini par lui sauter sur le dos pendant qu'il était en train d'ouvrir le casier. Et ce qui fait que j'ai réussi à récupérer le truc et je me suis réveillée juste à ce moment-là en ayant accompli ma mission.
Finalement, je me demande si t'avais raconté tes rêves d'enfance, ça aurait pas été mieux, tu vois. Bon.
Qu'on va peut-être passer au rêve que cette fois-ci Jérôme va nous raconter, mais ce ne sera pas le sien.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime. Et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime, et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore. Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Les voix chères qui se sont tues. Rousseau aussi en est une voix chère qui s'est tue, n'est-ce pas Nadège ? Toi, la grande philosophe, as-tu donc déjà rêvé de ton ami Rousseau ?
Eh bien non, figure-toi Marie-Ève que je rêve très peu souvent de Rousseau, mais en revanche, certains philosophes aiment beaucoup rêver et délaissent la froide austérité des systèmes pour s'accorder de temps en temps des petites pauses, un peu hors champ, sans cadre, sans faire trois parties, sans méthode. Jules Laforgue dit quelque part... Méthode, méthode, que me veux-tu ? Tu sais bien que j'ai mangé de l'inconscient. Eh bien, je crois que ce que dit Jules Laforgue nous concerne tous. La raison résonante tout le temps, c'est intenable, et en plus, c'est impossible. Il y a toujours un moment où l'inconscient parle, même chez les philosophes. Sauf que le rêve des philosophes, il a un nom spécial, c'est la rêverie. Et ce mot a sa petite histoire. Au départ, la rêverie est quelque chose de très mal vu. Au Moyen-Âge, c'est d'ailleurs une véritable maladie, en fait. Elle est proche de la mélancolie et provoque des délires. Une image bien négative, me direz-vous. Mais d'un côté, c'est pas très étonnant. Car au fond, c'est quoi la rêverie ? Eh bien, c'est peut-être ce que vous faites en ce moment même, en écoutant l'émission d'une oreille distraite.
Mais ou... non, voyons, nos auditeurs sont attentifs.
Oh, ça j'en doute. Ou bien, lorsque vous lisez un livre. Car, sérieusement, à part lorsque vous travaillez sur votre mémoire, lisez-vous toujours tête baissée avec une concentration maximale ? Certainement pas. Il y a dans la lecture des moments de libre échappée, à partir d'un mot, d'une phrase, d'un rythme, d'un vers, bref, de quelque chose qui, à un moment donné, va capter votre attention, résonner en vous, vous permettre de faire des liens avec votre expérience personnelle et ce qui vous touche. Donc, après une période de lecture continue, la rêverie, c'est la petite pause vagabonde que s'accorde l'esprit. C'est un temps de vacances et de latence où la raison lâche prise et où on papillonne en liberté. Cet état-là, Bachelard le décrit dans la poétique de la rêverie. Je suis un rêveur de mots, je crois lire. Un mot m'arrête, je quitte la page. Les syllabes du mot se mettent à s'agiter. Les accents sur la page se mettent à s'inverser. Le mot abandonne son sens, comme une surcharge trop lourde qui empêche de rêver. Les mots prennent alors d'autres significations et m'emmènent vers d'autres idées. C'est ainsi qu'on part à la dérive. Autrement dit, pendant la rêverie, le temps s'arrête, les objets autour de nous s'effacent, leurs contours se dissipent dans une brume que notre rêverie répand autour d'elle. C'est un moment de torpeur magique, un rêve éveillé, mais qui a l'inconvénient d'exclure les autres. On peut dire que la rêverie, je crois, est le fruit de la solitude. Sauf que l'embêtant, c'est que si on prolonge à l'excès cet état, au point d'être une sorte d'autisme, oui, c'est ça. Si on est perdu au point, dans ses pensées, au point que les autres sont obligés de nous secouer ou de faire de grands gestes pour nous parler « Hey, coucou, je suis là, tu m'as vu là ?» ça devient maladif et c'est agaçant. Et on se prend des réflexions du type « Ah là là, il est tout le temps dans la lune celui-là » Donc c'est pas très étonnant qu'au Moyen-Âge, la rêverie ait eu l'air d'une maladie. Mais heureusement, la rêverie a aussi ses bons côtés. Quand elle vous phagocyte pas, elle peut se révéler féconde.
Ah.
Le tout, c'est de savoir la contrôler, Marie-Ève. C'est-à-dire savoir rêver 2 minutes et pas 2 heures. Et pas perdre de temps.
Pas pendant les versions de latin, en tout cas.
Oui, par exemple. Parce que la rêverie, elle a le mérite de ne pas être comme le rêve. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, le rêve qu'on fait pendant la nuit, c'est un rêve sans rêveur, dans le sens où celui qui rêve est passif, il subit son rêve, et il subit l'opération de grand nettoyage qu'effectue son inconscient toutes les nuits. Et dormir, du coup, c'est un peu comme aller au cinéma, sauf que c'est l'inconscient qui choisit le film. Et soit vous faites un joli rêve, soit vous faites un cauchemar. Et dans ce cas-là, la conscience du rêveur, elle n'a pas trop de mots à dire. Au contraire, quand on est dans le cadre d'une rêverie, le rêveur de rêverie garde assez de conscience pour dire « C'est moi qui, en pleine conscience, suis en train de rêver. Là, c'est moi qui suis heureux de rêver ma rêverie. C'est moi qui suis heureux du loisir où je n'ai plus la tâche de penser. » Donc en fait, le rêveur de rêverie est pleinement un sujet, il a un moi, et en revisitant le cogito de Descartes, on peut dire « je rêvasse, donc je suis ». Ma rêverie est choisie et non subie, et c'est toute la différence avec le rêve. Donc, dans cette acception-là, la rêverie peut être une solution alternative à la pensée résonante, à la pure raison. Elle peut nous entraîner vers des réflexions plus légères, sur un ton familier, mais sans nous priver pour autant de profondeur. Voyez Montaigne, ses essais sont pour lui un recueil de ses rêvasseries, comme il les nomme lui-même. Dans le même ordre d'idées, Diderot aura une formule, ça restait célèbre, « Mes pensées sont mes catins », c'est-à-dire « Je vais du coq à l'âne à bâton rompu, selon mon bon plaisir », et c'est Diderot, le philosophe débraillé. Cependant, c'est bien Rousseau qui donne à la rêverie ses lettres de noblesse. Pour lui, elle est l'état privilégié de celui qui est à l'écoute de la vie intérieure et qui cherche à atteindre un état de communion avec le monde. Vous avez lu, pour la plupart, je pense, les rêveries du promeneur solitaire, où Rousseau, avec sa paranoïa habituelle, se croit la proie d'un complot collectif. Ça s'ouvre comme ça. « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. » Alors la solution, quand on se sent persécuté comme ça, c'est de se replier. C'est d'aller vers la solitude. Et c'est donc l'occasion rêvée d'enfin se connaître soi-même au gré des rêveries et des promenades. Et les amateurs de la randonnée seront bien d'accord. Marcher libère les idées et la créativité. La promenade oxygène l'esprit et équilibre les fluides du corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que les disciples d'Aristote marchaient eux aussi. La clarté d'esprit naît du mouvement du corps. La marche, accompagnée de rêveries méditatives, dissipe les zones d'ombre et permet d'accéder à la transparence. Fin des obstacles, début de la transparence. Les littéraires parmi nous comprendront l'allusion. La transparence est là, le moi vous apparaît dans la profondeur de la vérité, et ce, dès la première promenade. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle, où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. Bon, ça c'est Rousseau qui l'ajoute, mais c'est sans doute pas si loin de la vérité que ça, puisque la rêverie permet d'atteindre enfin une lenteur, de s'accorder du temps pour le développement autonome de sa pensée. Et c'est alors que la rêverie rejoint un peu la contemplation. Le moi se fond dans le tout. Un état de symbiose est vraiment possible d'ailleurs quand on est au bord de l'eau, si possible d'une eau calme, comme un lac par exemple. Ça c'est vraiment le cadre idéal en fait. Puisque dans un tel paysage, l'eau se contente d'être là, elle s'offre à la vue, elle n'oppose rien devant le spectateur. Pas de rochers, pas de montagnes. Et du coup, le monde s'offre tel qu'il est, dans une absence d'horizon, et les soucis peuvent alors s'évaporer. C'est exactement le cas de Rousseau, face au lac de Bienne, dans la cinquième promenade. Écoutez. Quel était donc ce bonheur et en quoi consistait sa jouissance ? Je le donnerai à deviner à tous les hommes de ce siècle sur la description de la vie que je menais. Le précieux Farniente, ah oui, parce qu'en plus il emploie ça, fut la première et la principale de ces jouissances que je voulus savourer dans toute sa douceur, et tout ce que je fis durant mon séjour ne fut en effet que l'occupation délicieuse et nécessaire d'un homme qui s'est dévoué à l'oisiveté. Je me suis trouvé souvent dans cet état de bonheur plein et permanent, à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau, que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence dépouillée de toute affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix. Amis philosophes, la rêverie serait donc la clé du bonheur, à condition de ne pas trop s'y plonger cependant. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ? louer une barque au parc de la Tête d'Or, installer un fjord norvégien en fond d'écran, trouver une paire de chaussures de marche à vos pieds, et c'est parti pour une bonne séance de libre rêverie en toute intimité. Avec Rousseau, un seul mot d'ordre donc, lève-toi et marche. Dream on, dream on, dream on through the dark.